l'entends. Donc, celui qui va nous parler de Philip K. Dick et de la manière dont Philip K. Dick définit ou s'intéresse à l'humain, c'est Étienne Barillet, qui est un spécialiste, qui se définit lui-même comme essayiste, je crois, et qui a publié un certain nombre d'essais, de guides, de points de repère, non seulement sur Philip K. Dick, mais sur d'autres auteurs aussi. Il a publié chez Les Moutons Électriques un essai qui s'appelle « Les nombreuses vies de Fantômas ». Il a publié un deuxième essai chez le même éditeur qui s'appelle « Steampunk ». Il a écrit pour les éditions ActuSF un petit guide de lecture qui s'appelle « Le petit guide à trimballer » de Philip K. Dick, dans un petit format original et facile à transporter. Et il est maintenant à vie, je pense, étiqueté le spécialiste contemporain de Philip K. Dick, puisque dès qu'on publie maintenant une œuvre, De Noël Lune d'encre vient de publier une magnifique trilogie qui est la trilogie divine, donc les trois romans de la période, comment dire, mystique, religieuse, et dont Étienne a rédigé la postface. Donc voilà, il connaît très bien Philip K. Dick et il va nous en parler et nous dire comment Philip K. Dick définit l'humain. Donc il a préparé très sérieusement des tas de choses à nous dire. Je me réserve le droit de l'interrompre, de lui couper la parole, de lui poser des questions à votre place dans un premier temps, mais on vous laissera aussi un peu de place pour en poser vous aussi, parce qu'on en aura tous à lui poser. On te passe la parole, Étienne ? On vous passe la parole, cher ami.
Merci. Tout d'abord, bonjour. Donc, on m'a proposé de venir vous parler de la question de la définition de l'humain chez Philip K. Dick. Donc, 1928-1982, cela fait 31 ans qu'il est mort, en tout cas de notre côté de la réalité. Avec une œuvre qui tourne principalement autour de, on va dire, trois questions principales. Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que le réel? Par extension, qu'est-ce que l'homme? Et au final, tout cela peut se regrouper dans une seule question, comment survivre à tout cela? Chose que Dick a explorée dans l'intégralité quasiment de ses romans depuis ses débuts dans l'écriture, et ainsi que dans ses nouvelles. Donc, Philip K. Dick, pour ceux qui ont besoin d'un petit cours de révision rapide, donc une quarantaine de romans, près de 120 nouvelles, et à ce jour, l'écrivain de science-fiction le plus adapté au cinéma par Hollywood, vu que nous en sommes au 12e film, enfin 11 films à Hollywood et un film en France. Hein, c'était Confession d'un barjot de Jérôme Boivin. Quand on m'a proposé ce sujet-là, j'ai pensé immédiatement à une nouvelle de Philip K. Dick de 1953 qui s'appelle tout simplement « Être humain, c'est human is ». Donc, c'est une nouvelle très très courte, très très simple, qui se déroule dans un futur assez proche. Et nous avons un couple qui est, comme souvent chez Philip K. Dick, un couple dysfonctionnel, ça ne marche pas. Le monsieur, qui est un scientifique de renom, se consacre exclusivement à son travail et refuse à sa femme la joie d'avoir un enfant. Et il est envoyé sur une planète lointaine pour faire des travaux. Et à son retour, il s'avère que sa personnalité a été remplacée par un extraterrestre du cru qui a donc profité de la venue de notre scientifique pour s'emparer de son corps. Et les autorités terriennes sont très embêtées parce qu'il faut, il faut juger cet homme. Mais comment juger un extraterrestre qui vit à l'intérieur d'un être humain, dont la conscience est à l'intérieur d'un être humain, quand on n'a aucune preuve physique pour le condamner? La seule personne pouvant le condamner, c'est sa femme, qui bien évidemment est tombée amoureuse de l'extraterrestre, qui s'avère être un être humain beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche, beaucoup plus sensible et attentionné que ne l'était son mari. Donc, une courte nouvelle, mais ce qui est intéressant, c'est ce que Philip K. Dick a pu écrire au sujet de ce texte. Il dit qu'être humain, ça ne dépend pas de l'apparence physique, ni de la planète sur laquelle on est né. Ça tient à la bonté. C'est la bonté qui, à mes yeux, nous distingue des cailloux, bâtons et autres bouts de métal. Et il en sera toujours ainsi, quelle que soit la forme que nous revêtions, quelles que soient nos destinations futures et quoi que nous puissions devenir. Ce texte est mon credo, puisse-t-il être aussi le vôtre. Donc, le concept très simple qu'il formule, celui de la bonté, va être un fil conducteur qui va courir le long de son œuvre. Philippe Cadic y reviendra régulièrement, il va le baptiser de beaucoup de termes, il va l'appeler caritas en latin, il va l'appeler agapé en grec, il va surtout l'appeler amour, tout simplement. Donc, ce qui va être pour lui le cœur du fondement de l'être humain, ça va être la capacité à aimer. Cela peut sonner un peu comme étant un peu fleur bleue. Or, dans son œuvre, qui est au contraire plutôt sombre et assez torturée, cet amour incarne à la fois l'espoir, la valeur suprême, le don absolu, le don parfait de soi vers l'autre. Et c'est cette capacité d'empathie qui va définir l'être humain. Donc, tu m'interromps quand tu veux. Pour vous montrer la complexité que peut prendre cette approche, j'ai pensé à une autre nouvelle extrêmement célèbre de Philippe Cadic, c'est La fourmi électrique. Dans cette nouvelle, le personnage principal, Garson Poole, qui est une espèce de magnat de l'industrie, un jeune homme qui est beau, riche, tout ce que vous voulez, a un accident de voiture extrêmement violent, nous sommes dans un futur proche, et il se réveille à l'hôpital. Le problème, le docteur lui annonce qu'il est impossible de le soigner pour la bonne et simple raison que Garson Poole est une machine. Ce que, bien sûr, lui-même ignorait totalement. Donc, abasourdi, il découvre que oui, il est une machine, parce que le vrai Garson Poole est mort il y a des années, que pour les intérêts de la société, on l'avait remplacé et qu'on l'avait programmé pour qu'il fonctionne exactement comme l'original. Et Garson Poole découvre que son torse peut s'ouvrir et qu'à l'intérieur, il peut voir les... Voilà, c'est un texte des années 50. Il va voir les rouages, les bobines, il va voir les petites cartes perforées qui circulent et qui font qu'il fonctionne. Mais dans sa tête, il est un être humain. Il ne peut pas comprendre comment la machine peut lui donner sa conscience. Et il va faire une série d'expériences de lui-même, sur lui-même. Il va repérer la petite bobine qui se sert à percevoir la réalité et il va la modifier. Il va d'abord la ralentir, des choses comme des chaises qui vont disparaître. Puis après, il va rajouter des trous. Et là, des bâtiments entiers vont disparaître. À la fin du texte, il décide volontairement de couper le circuit. Ce qui fait qu'il décide de se tuer, parce que là, bon, la machine ne fonctionnera plus. Mais à ce moment-là, c'est l'intégralité de l'univers qui commence à se déliter. Alors qu'on le lisait depuis le début, pensant que nous avions simplement la perception intérieure du personnage, sur la fin, il s'avère que la conscience collective a été impacté et que dans cette relecture du mythe de la caverne de Platon, la perception de la réalité, la perception problématique de la réalité ne peut pas être faite de manière objective, ni par une machine, ni par un être humain, ce qui fait que ni l'un ni l'autre ne peuvent se répondre. Donc, être humain, c'est première nouvelle. On a un extraterrestre qui s'avère être un meilleur mari et un meilleur humain qu'un humain de souche. La fourmi électrique, où on a une machine qui a une conscience humaine qui se met à impacter la réalité. Et une dernière nouvelle qui s'appelle Le Père truqué, là un grand classique, où la nouvelle est très très simple parce que vous allez connaître, enfin vous connaissez déjà l'histoire, c'est le petit garçon qui réalise que son père n'est pas son père, mais qu'en fin de compte c'est un double extraterrestre qui est en train de, d'apparaître. Et donc il va décider de tuer son père, enfin de tuer l'extraterrestre et peut-être de sauver l'humanité d'une invasion. Ce qui est intéressant, c'est que Dick a écrit ce texte en 1954, exactement la même année que Jack Finney, quand il a fait l'invasion des profanateurs de sépultures, que vous avez peut-être pu lire ou voir au cinéma, vu qu'on a exactement la même histoire, avec les mêmes cosses à l'intérieur desquelles sont en train de pousser des répliques, des simulacres d'êtres humains. Donc, la définition de l'humain pour Dick ne peut pas être quelque chose de, on va dire, de simple, de direct, parce que toutes les manifestations de l'humanité dans ces textes vont être constamment des variations problématiques et une distribution de l'humanité problématique. Être humain, ce n'est pas une nature. À la limite, je serais tenté de dire que ça serait une capacité, la capacité d'aimer.
En même temps, on a une définition de l'humain ici qui a l'air d'être particulièrement inconfortable et difficile à vivre, puisque il semblerait que ce qui caractérise l'être humain, c'est qu'il est enfermé dans son propre cerveau et qu'il est toujours en train de douter de la nature de ce qui l'entoure, en se demandant si ça n'est pas uniquement une illusion générée par son propre cerveau. Donc à la limite, on peut se demander si c'est pas de manière ultime cette espèce de vertige et de doute permanent qui, à ses yeux, ferait l'essence humaine. Est-ce que...
Oui, mais le doute est par nature ce que nous sommes. Pensez aux androïdes, rêvent-ils de moutons électriques, adaptés au cinéma sous le titre Blade Runner. Donc le personnage principal, Rick Deckard, René Descartes. Donc voilà, le cogito est là. Le doute est dans la matrice. Donc Rick Deckard, c'est un chasseur de primes dans le livre, qui accepte de retirer toute une série d'androïdes qui se sont infiltrés illégalement sur Terre. Ça, c'est la trame commune que le film et le livre ont en commun. À partir de là, le film va sur des directions scénaristiques différentes. Vu que la motivation de Descartes dans le livre, c'est de pouvoir acheter un animal. Il a déjà un mouton, mais c'est une mécanique. Et son voisin, lui, il a un âne, et c'est un vrai. Et Descartes, dans le livre, il veut avoir assez d'argent, donc réussir son contrat pour pouvoir acheter un animal authentique. Parce que, là encore, il faut enlever les images. Dans le film, si vous vous rappelez, c'est Los Angeles, il pleut tout le temps, la terre est surpeuplée avec des rues qui sont noires de monde. Dans le livre, ça se passe à San Francisco. Et la Terre est desséchée, 90% de l'humanité est partie vers les étoiles, et ne reste sur Terre que quelques agents du gouvernement, et les déclassés, des gens qui ont été déclarés inaptes, généralement pour des problèmes génétiques, pour représenter l'humanité dans les étoiles. Donc, les animaux sont devenus vraiment une denrée rare. Il y a la femme de Descartes qui passe ses journées sur un orgue à humeur, l'orgue d'humeur Penfield, donc une machine sur laquelle elle programme les sentiments qu'elle veut ressentir. Et elle programme un peu trop de dépression au goût de son mari. Il y a le personnage de John Isidore, donc lui c'est un spécial, hein, de ceux qu'on a interdit d'interner, qui travaille pour une société de réparation d'animaux. Mais comme il répare des machines, et que les gens veulent vivre dans l'illusion que ces machines sont des animaux authentiques, ils portent une blouse blanche, et ils sont passés pour une société de vétérinaires. Et il y a cette scène d'ailleurs dans le livre, où on lui confie un chat à réparer, Et une fois qu'il le ramène, il réalise que c'était un vrai chat. Et que la personne qui lui avait donné le chat n'avait jamais pris conscience qu'elle possédait un vrai animal et elle pensait que c'était une machine. Il va y avoir le personnage de Rachel, donc comme dans le film. Elle va coucher avec Descartes, comme dans le film. Si ce n'est que, si vous vous souvenez, le film, Descartes va tomber amoureux d'elle et il va partir avec elle et le film s'arrête là. Dans le livre, Descartes couche avec elle, mais il est manipulé par elle parce que elle sait que s'il couche avec une machine, il ne sera plus jamais capable d'en tuer une. Et enfin, il y a un autre personnage qui est totalement coupé du film, qui est Phil Reich, qui est un autre chasseur de primes, qui, à la différence de Descartes, il aime tuer. Lui, il prend son pied en tuant les machines, parce que tuer un être humain, c'est illégal, mais tuer une machine, on a le droit d'être payé pour. Et il y a tout un long dialogue entre Descartes et lui, où ce qu'il en ressort, c'est qu'ils ne savent plus qui est un être humain ou pas. Alors Descartes, il a son test, hein, la machine de Weidkampf, hein, et ils se proposent l'un l'autre de se faire passer le test d'humanité, histoire de vérifier si on est bien tous les deux des êtres humains, si jamais je suis une machine, s'il te plaît, tu voudras bien me tuer. Donc, dans le roman, on a une disposition de personnages qui vont tous présenter des degrés différents d'humanité. Donc, Descartes, qui semble être le plus humain, le plus torturé, qui a des états d'âme. Sa femme, qui semble être en repli de sa propre humanité, qui se réfugie dans des mondes virtuels. Alors, Kandik a écrit son livre, les mondes virtuels n'existaient pas. Il a inventé ce concept d'orgue à humeur. Peut-être qu'un écrivain d'aujourd'hui parlerait de Second Life. Donc, il y a Isidore, qui est donc le déclassé, la personne inapte, la personne qui est brisée à l'intérieur et qui pourtant va être la plus humaine de tous dans le livre. Le chasseur de primes, qui est un salopard fini. Et bien évidemment, je n'ai pas parlé des réplicants. Enfin, les réplicants, c'est dans le film. Ça, c'est une invention de Ridley Scott. Pour Dick, il utilisait le terme d'androïde. Et d'ailleurs, dans sa terminologie, il peut utiliser aussi bien androïde, robot, machine. Il n'a pas de classification stricte. Les machines ressemblent à des êtres humains, sont meilleures que nous, sont plus fortes que nous, sont plus intelligentes que nous, si ce n'est qu'elles ont un temps de vie limité et elles veulent pouvoir refaire leur programmation pour vivre plus longtemps. Dans le livre, pendant un temps, on a presque de la sympathie pour leur combat. C'est la minorité qui veut survivre. L'oppresseur qui veut s'émanciper, l'oppressé qui veut s'émanciper. Dick glisse une petite scène où il présente Pris, donc une des réplicantes, une des androïdes, en train d'arracher doucement, méthodiquement, les pattes d'une araignée. Et ce simple geste, qui n'est même pas le plaisir un peu pervers d'un enfant qui s'amuse à faire ça, c'est vraiment la volonté de détruire quelque chose, fait bien de ces androïdes-là des créatures maléfiques. Et alors bien sûr, pour le livre, je n'ai pas dit le plus gros morceau. Tout l'élément qui est absent totalement du film, qui est le mercerisme. C'est une religion que Dick a inventée, qui se pratique très simplement. Vous prenez un boîtier et toutes les personnes qui portent le boîtier en même temps vont ressentir les mêmes émotions. Et ce qu'ils vont ressentir, ça va être les douleurs et souffrances de Mercer alors qu'il est en train de gravir une montagne et que des inconnus lui jettent des pierres pour le faire chuter. Donc on ressent la douleur, on ressent la souffrance, hein, on a Sisyphe qui grimpe, et à tel point qu'on peut même avoir les stigmates, hein, des coups reçus. Donc, cette capacité de fusion, c'est cette faculté technologique de provoquer chez nous un sentiment d'empathie et donc d'avoir la preuve que l'on est bien des êtres humains. Bon, comme c'est un roman de Philip K. Dick, on va découvrir que Mercer, en réalité, était un acteur, que tout était fait en studio, et malheureusement, il va continuer à apparaître comme si la force mystique était présente. Se pose au final la question de est-ce que Descartes est un androïde ou pas ? Est-ce que sa femme en est un ou pas ? Exactement la même question qu'ils ont transposée dans le film. Et ce qui est intéressant, à mon goût, c'est que Dick ne va jamais proposer une réponse, qu'il va laisser le doute, l'inquiétude persister afin de provoquer chez son lecteur une envie de participer à la mécanique du texte et se poser ses propres questions.
Il y a des tas de questions sur qu'est-ce que c'est qu'avoir un rapport normal avec l'univers et la réalité. Il y a travaillé d'une autre manière. Je ne sais pas si tu avais prévu de nous en parler, mais j'aimerais bien qu'on t'entende un peu là-dessus. Philip K. Dick a beaucoup mis en scène des personnages qui sont fous, qui sont dérangés psychologiquement et qui sont profondément humains en même temps, en décrivant d'ailleurs des désordres mentaux de manière précise, en les mettant en scène dans des univers organisés. Être humain, il travaille aussi sur qu'est-ce que c'est qu'être un humain sain d'esprit dans sa tête. Comment dirais-tu qu'il définit un humain sain d'esprit, par exemple ? Puisque visiblement, celui qui arrache les pattes des araignées n'est pas insensé, il est juste moins humain.
Non, c'est le problème va être triple. Ça va être le problème de... Dans le corpus de Philip K. Dick, il n'y a pas, comme chez Asimov, les lois de la robotique qui me permettent de savoir ce qu'est une machine, comment elle fonctionne, quelles sont ses limites, quelles sont ses contraintes. La machine, il la prend au sens d'un outil qui va lui servir pour structurer toute une série de fictions. Dans ses derniers livres, où il s'éloigne un peu plus de la science-fiction, ces personnages sont totalement habités par leur propre vie. Je m'explique. Ils sont dans un mouvement de recherche de bonheur, de recherche d'équilibre, de recherche de réponses, qui peuvent être aussi bien des réponses mystiques, donc est-ce que Dieu existe, que des réponses aussi simples que de... Est-ce que, enfin, comme dans son dernier roman, est-ce que je vais manger un sandwich ou pas ? Et pourtant, cette interrogation sur est-ce que je vais manger le sandwich ou pas est importante, parce que je suis un être humain et cela conditionne des choses par rapport à qui je suis et ce que je fais. Le problème de la folie apparaît... Philip K. Dick a fréquenté des psychiatres pendant toute sa vie. Enfant, sa mère l'amenait déjà, puisque c'était un surdoué. Il n'a jamais été diagnostiqué par personne comme étant cliniquement fou. Peut-être qu'il a eu de la chance, peut-être que c'était un très bon menteur. Dans le bal des schizos, dans son roman Le bal des schizos, une société veut recréer la guerre de sécession sous forme d'un gigantesque parc d'attractions. Donc ils vont faire un faux Abraham Lincoln. Alors je vous rappelle que c'était fait à l'époque où Disneyland était une attraction high-tech et où l'on pouvait voir les automates et que c'était hallucinant. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on crée un Abraham Lincoln, on ne crée pas simplement notre image d'Abraham Lincoln. Si je parviens à recréer l'individu, il va y avoir toutes ses valises avec lui. Et ça va pas forcément être quelqu'un qui va être heureux de revenir ou de d'être malléable, corvéable, etc. Cette idée de recréer un simulacre apparaît très très souvent dans ces textes. En attendant l'année dernière, un multimillionnaire dépense des fortunes pour recréer le quartier de Washington où il vivait en 1935. Donc il fait des recherches à travers toute la planète pour retrouver tous les accessoires, tous les objets du quotidien. Donc recréer le simulacre authentique, excusez l'oxymore, de ce qu'a été son enfance. Mais une fois que j'ai fini de recréer, la chose là aussi ne peut pas être satisfaisante. Et le simulacre ne peut pas être une réponse. Donc le travail sur la folie, sur le là où je vais ou ce que je suis, est définitivement un fil rouge. Les personnages de Dick se demandent très souvent s'ils sont fous, et dans certains cas c'est le cas, si le monde est fou. Mais à partir du moment où je me pose la question, est-ce que ça veut dire que je suis sain d'esprit ? Enfin voilà, on tombe dans les paradoxes, les miroirs et les réponses aux miroirs. Le critique américain Frederick Jameson, dans des livres qui sont parus récemment, enfin réédités récemment en France, Archéologie du futur, définit le concept du cogito androïde. Alors c'est plus le cogito humain, voilà, mais c'est celui de la machine qui pourrait accéder à un état de conscience qui fait qu'elle deviendrait totalement humaine ou présenterait une finalité, une fonction, une raison d'existence qui serait à l'égal de l'humanité. Entre nous, on retrouve ici des thématiques de science-fiction extrêmement contemporaines à travers la recherche de la singularité, etc. Sauf que bon, là aussi, ça n'existait pas du temps de Dick, et lui, il jouait avec ces concepts-là à sa façon. Et cette question du cogito androïde est intéressante parce qu'elle met en valeur le fait qu'un être humain peut être cassé et peut perdre par le biais de cette fêlure son humanité. Dans le bal des schizos, donc, il fabrique ce simulacre de Lincoln qui va devenir Lincoln, mais sa conceptrice, Pris, c'est une schizophrène destructrice, une femme qui va être la némésis et le trou noir dans lequel va s'engloutir le héros, parce qu'il va chercher à conquérir cette femme-là, même si lui-même va devoir sombrer dans la folie pour pouvoir s'en approcher.
Il a exploré aussi d'autres manières plus ou moins volontaires de sombrer dans la folie, parce que l'usage de la drogue, finalement, c'est des expérimentations qui visent à perturber la nature humaine dont il a été doté au départ. Non
Philippe K. Dick s'est très rarement drogué dans sa vie. Il a pris du LSD une fois, quelques trucs bizarres une fois ou deux, de la mescaline une fois. Par contre, il était accro aux amphétamines, qui à l'époque étaient vendues en pharmacie et qui étaient délivrées sur ordonnance. Il fréquentait, bon, nous sommes dans la Californie des années 60, donc des milieux où la drogue circulait avidement. Et donc la légende du Philippe K. Dick qui écrivait drogué est née sous la plume d'Arlan Ellison. Hein, c'est une des nombreuses vacheries qu'il a pu faire. dans son anthologie Dangereuse Vision, où il avait présenté Philippe K. Dick comme étant donc, voilà, le pape de la drogue.
C'était bien vu en même temps dans le contexte.
Oui, c'était bien vu, mais bon, par contre, bon, je vous rassure, les amphétamines, Dick les en mangeait par poignée entière. Hein. Donc bon, plusieurs romans traitent explicitement de la drogue. Le chef-d'œuvre, c'est Substance Mort, donc adapté au cinéma sous le titre Scanner Darkly. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là. où ils ont adapté le procédé du rotoscoping, c'est-à-dire qu'ils ont filmé les acteurs, là, Robert Downey Jr. et compagnie, et ils ont dessiné, ils ont peint sur les acteurs. Donc ils ont peint les décors et ils ont peint les acteurs. Ce qui fait qu'on a le jeu, on a toute l'expressivité du jeu, mais le décor va s'avérer mobile, instable, parce qu'on est toujours du point de vue de la perception du drogué. Et dans ce roman-là, donc, cela raconte l'histoire de Fred Actor, donc Actor, l'acteur, qui est un flic qui va s'infiltrer dans une petite communauté de drogués afin de procéder à des arrestations si besoin était. Alors pour pouvoir s'infiltrer, eh bien, il va devoir consommer de la drogue lui aussi. Et le problème, c'est qu'une fois qu'il prend de la drogue, il pourrait être arrêté. Donc bon, les choses deviennent compliquées. Et cette drogue, la substance M, hein, qui porte bien son nom, va provoquer toute une série de lésions cérébrales qui font que, voilà, petit à petit, au fur et à mesure du livre, les rapports entre les personnages vont prendre une étrangeté que le lecteur non camé au dernier degré pourrait, a du mal à comprendre. Le talent et le génie de Dick dans ce livre est justement de rendre sensible ici cette personnalité du drogué, de ne pas le regarder de haut ni avec misérabilisme, mais de le traiter en tant que qu'être humain et que personnage, pour en faire quelqu'un qui se perd petit à petit, même si dans les toutes dernières pages il y a une bribe d'espoir. Donc la drogue va modifier l'humanité parce que le personnage s'y perd. Dans le Dieu venu du Centaure, cela dit, le titre français, le titre original se traduirait par les trois stigmates de Palmer Eldritch. Nous avons donc Palmer Eldritch qui revient du Centaure et qui offre à l'humanité une nouvelle drogue qui va remplacer celle que les gens prenaient d'habitude. C'était une petite drogue que les gens prenaient qui permettait de se projeter dans la conscience de l'univers de poupées pattes. Les poupées pattes, c'est des Barbies, si vous voulez, hein, des petites maisons, des petites des poupées.
Il faut dire qu'ils sont sur une planète aride. Hein. Voilà. Ce sont des colons dans un espace assez peu hospitalier.
Et donc, grâce à la drogue, on oublie tout cet aspect-là.
On retrouve des machines à laver, des fours micro-ondes.
L'univers de Barbie. Et donc, pour vivre dans un univers parfait, idéal, magnifique. Quand Palmer Eldritch arrive avec sa nouvelle drogue, qui est moins chère, qui est mieux, que tout le monde adopte, tout le monde plonge dans les univers et les simulacres qu'elle offre, si ce n'est que tout le monde va retrouver dans ses visions Palmer Eldritch. Donc il va devenir une espèce de dieu. Donc dans le roman, on a à la fois une humanité en souffrance, donc qui fuit grâce à la drogue, une humanité qui va souffrir parce qu'elle va tomber sur un faux dieu qui va être destructeur. On a aussi une humanité qui va chercher à se transcender et à atteindre un état, enfin à se sortir de cette situation. Donc des personnages qui semblent toujours suspendus entre différentes chutes, entre différentes manifestation de la souffrance. Chez Dick, on n'est pas dans un écrivain de l'optimisme, de l'espoir béat.
On peut le dire comme ça.
C'est un écrivain souvent drôle. Mais c'est, voilà, c'est avant le désespoir, la dernière chose qui nous reste, c'est l'humour. Donc sa définition de l'homme va toujours être un homme qui va être en situation avec des cas limites de lui-même. Le personnage d'Ikien n'est pas quelqu'un de sympathique. Le héros d'Ikien n'est pas quelqu'un de sympathique. C'est un monsieur tout le monde, banal, souvent médiocre. Quand il a des talents, il ne l'exploite pas forcément. Il rate souvent. Comme diraient les jeunes, hein, c'est un loser. Mais justement, à travers cette figure du anti-héros, nous, Dick explore des thématiques, des problématiques qui sont totalement propres à son œuvre. Je veux dire par là que quand on pense à couler mes larmes, dit le policier, dont je vais vous parler juste après.
Rapidement, si on veut garder des questions.
Donc, dans Couler mes larmes, dit le policier, nous avons un présentateur de télé vedette qui se réveille un matin et plus personne ne le connaît sur la planète. Et le roman raconte ce parcours où il veut justement sortir de cette réalité où il passe du statut de mégastar à celui d'anonymat. Le roman est intégralement un roman sur l'amour, qui n'explore que toutes les variantes et toutes les possibilités de l'amour, qui vont aller de l'amour entre l'homme et la femme, l'amour entre tous les êtres humains, ça va aller jusqu'à la pédophilie, parce que il y a des formes d'amour qui peuvent être déviantes et dérangeantes. Mais il va toucher petit à petit à des formes d'amour plus étonnantes, l'amour que quelqu'un peut ressentir pour un objet, une œuvre d'art. Bien évidemment, il évoque l'amour que le lecteur peut ressentir pour l'auteur. C'est une petite coquetterie qu'il se permet. Mais en tout cas, dans le livre entier, il explore toute la les 12 ou 14 différentes façons qu'il peut y avoir d'aimer quand on est un être humain. Alors que le personnage principal n'en est pas un, vu qu'il est le produit d'une expérience génétique.
Je te pose une dernière question, il faudra être court, parce que je pense que tout le monde a envie de t'en poser. Moi, j'en avais une sur... En fait, tu as surtout parlé de la mise en scène d'un être humain isolé face au monde, et essayant de se définir par rapport à lui. Il y a quand même... Il a beaucoup de couples étranges dans ces récits de couples qui fonctionnent mal, oui, tu l'as dit. Il a aussi des espèces de doubles qui suivent les personnages, qui sont peut-être aussi une manière de parler du couple, mais c'est quand même quelque chose qui est très permanent, qui revient très fréquemment.
Et de manière totalement consciente et volontaire dans son œuvre, Philip K. Dick était double. Sa sœur jumelle, Jane, est morte quelques semaines après leur naissance. Le père de Dick était persuadé que Philippe ne survivrait pas non plus et mourrait également à l'hôpital, ce qui fait qu'il avait acheté dans le Colorado une tombe double. Donc Jane a été enterrée de son côté et il a fallu attendre une petite cinquantaine d'années pour que Philippe la rejoigne dans cette tombe qu'il a attendue toute sa vie. Il a toujours travaillé cet imaginaire autour du double, cette moitié manquante, cette jumelle absente qu'il imaginait comme il imaginait comme une lesbienne, et il précisait toujours quelqu'un de très courageux. C'était, et ça, dans sa correspondance, il s'était fait tout un personnage qu'il va après exploiter dans différents romans avec des caractéristiques de gémilité, de double, ou de la femme aux cheveux noirs qui apparaît comme une figure permanente.
C'est étrange, c'est troublant. Profitez d'Étienne Barillet pendant qu'il est là. On va vous laisser. On n'a plus que 5-10 minutes. Vous avez sans doute des questions. Vous avez un spécialiste et qui a un point de vue original, en plus et personnel, sur l'œuvre. Sinon, on continue, hein, y a pas de souci.
Philip K. Dick a fait un travail de romancier qui réfléchit comme un philosophe. Donc ce qu'il pose dans ses romans, il ne va pas donner de réponse. Il pose les problèmes, il explore le problème.
Il pose aussi les pathologies, les cas extrêmes.
Voilà.
Quand vous en parlez, ça me faisait penser au traité des couleurs de Goethe, justement pour la perception, l'approche philosophique d'aller du côté de la déficience pour essayer de percevoir.
Dick ne s'intéresse pas au héros parfait. Il n'y a pas de sauveur de l'humanité. Il n'y a pas de. Enfin, le héros parfait lui fait peur. Il est nazi quelque part.
C'est un menteur. Mercer est un menteur.
C'est un menteur, mais il s'avère être capable de dire la vérité aussi. Les choses sont complexes. Mais la chose qui fait peur à Dick, c'est le nazi. C'est pour ça qu'il n'a jamais écrit la suite du Maître du Haut-Château, parce qu'il n'a pas été capable de dépasser 2 chapitres, parce que c'était trop dur pour lui de contempler, parce que c'était quelqu'un de sérieux, qu'il avait fait ses recherches, il avait lu les témoignages, il avait travaillé la question de la solution finale. Et pour lui, voilà, l'inhumanité, c'était le nazi. C'est être capable de faire d'avoir cette absence totale d'empathie qui conduit, comme il le raconte dans une de ses lettres, à faire des abat-jour en peau humaine.
Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne envie de relire plein de choses que j'ai lues il y a longtemps, plein de nouvelles pour cette thématique de l'amour. Je ne l'avais pas perçue aussi clairement avant que tu nous l'expliques. Est-ce que vous l'aviez lu comme ça, l'œuvre de Philip K. Dick ? Vous aviez vu ce fil conducteur ?
Justement, dans la définition du début, il place l'amour comme par opposition à des choses inanimées. Du coup, comment il place l'animal là-dedans ? C'est-à-dire que l'animal, quelque part, bon, il peut faire preuve d'affection, mais sans intellect. Alors que là, j'ai envie de dire que chez l'humain, il y a l'intellect qui peut contrecarrer. Il y a des choses là-dessus, parce que justement, j'avais envie d'en lire ce nom.
Mais Dick était un homme à chat, ce qui en fait déjà quelqu'un de bien. Et les chats sont toujours formidables chez lui, ainsi que les chiens. Une de ses premières nouvelles, Rougue, qui raconte l'histoire d'un chien qui est en train de sauver l'humanité et personne ne s'en rend compte parce qu'il aboie, il fait peur aux extraterrestres et tout le monde lui dit « Tais-toi !» Alors qu'en fait, c'est le seul aboiement qui retient que les extraterrestres attaquent. Donc voilà, l'animal, c'est le complément essentiel. Voilà.
Il me reste quelque chose de la fin du film Blade Runner. J'ai toujours pas été fichu de lire le roman. J'avais compris d'une façon que vous n'avez peut-être pas évoquée. Il me semble à la fin que quand Descartes s'en va avec Rachel, il sait qu'elle n'est pas une humaine mais un robot et il s'en fiche. Parce qu'au fond, ça n'a plus d'importance et puis ça n'est plus différent. C'est comme ça que je le sentais.
Oui, dans le film, c'est pour Ridley Scott, Descartes est une machine. Pour Harrison Ford, Descartes est un être humain. Et lui, il l'a joué comme ça. Pour la petite histoire, Harrison Ford avait lu le livre, tandis que Ridley Scott n'avait jamais lu Philip K. Dick et n'avait travaillé que sur les scénarios. Et c'est pour ça qu'ils se sont détestés, parce que ils n'avaient pas du tout la même lecture du personnage. L'ambiguïté finale du film pose simplement, c'est est-il une machine ou pas ? Mais dans les deux cas, il aime Rachel.
Oui. Moi, je n'avais pas senti l'idée que lui serait une machine en voyant le film. Ça ne m'était pas venu à l'esprit.
Oh, si, la scène avec le piano, où il y a toutes les vieilles photos, la scène de la licorne.
Je ne l'ai pas en tête.
Voilà, enfin, il faudra le revoir et vous verrez, il y a beaucoup de petits.